Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charlie!
Ah les garçons, dites, ouais. Vous trouvez pas qu'on surjoue un petit peu dans le sketch de début là?
Surjouer,
alors ça m'étonnerait. Alors là, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça, Charlie.
Oui, bah si, bah écoutez-vous là, voilà, on se croirait dans Plus belle la vie.
Alors qu'on a une finesse de jeu à travailler pour Wong Kar-wai, grave. Bah,
écoutez, aujourd'hui, on reçoit Louis Garrel.
Un bon petit acteur de comédie, Loulou.
Voilà, il vient pour un film qu'il a réalisé qui s'intitule L'homme fidèle.
Ah, pas un rôle pour moi.
Dedans, ça joue subtilement. C'est ses côtés plus nouvelle vague, quoi.
Ouais, alors que nous, on serait plutôt ancien tsunami en matière de jeu, ça c'est sûr.
Bon, tu vois, on va essayer, On recommence. Moi, je vais t'en envoyer du Godard, du Truffaut, du Chabrol.
Allez. Bonjour, les garçons.
Bonjour Charline.
Qui reçoit-on aujourd'hui?
Louis Garrel, acteur.
Réalisateur.
Bon acteur. Il réalise? Je ne le savais pas.
Et il écrit? Ce film, il l'a écrit avec Jean-Claude Carrière.
L'homme fidèle, un beau titre et bel oxymore. On s'emmerde un peu là, non?
Ouais,
on se fait chier.
Ouais, non, c'est vrai. On va peut-être rester dans notre cœur de métier, le cœur business, quoi. Et chacun son style, allez, restez dans le surjeu.
On n'a jamais été dans le surjeu!
Bonjour la France Inter, nous sommes le jeudi 20 décembre 2018 et voilà déjà 48 heures que les Belges n'ont plus de gouvernement. Ne nous oublions pas. Depuis que les nouvelles technologies sont entrées dans nos vies, le temps passe plus vite. Questionner notre rapport au temps, c'est questionner le sens de la vie. Et ça en dit long aussi sur notre rapport aux autres.
Être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple.
Quand l'acteur incarne un rôle, l'acteur doit-il ressentir les émotions de son personnage ou est-ce que tout son art consiste à savoir parfaitement les imiter? Il y a deux écoles.
Par contre, je suis désolée, je suis encore un peu dans mon personnage. En tout cas, c'est elle qui m'habite encore pour quelques instants, une minute. Ça y est, on est parti.
Il y a deux écoles aussi pour les livres qui parlent de cinéma. Il y a les gros ouvrages pleins de photos qui décorent généralement la table du salon. Et puis il y a les livres pour les plus cinéphiles et l'édition dans le genre est foisonnante, comme pour l'intégrale des critiques d'André Bazin.
Tu as vu mon dernier film?
Non, j'ai pas eu cette chance.
La merde en bâton, ils ont écrit les critiques. La merde en bâton.
Merci, Navi. Lui, je sais ce qu'il se demande, mais alors, qui va se dévouer pour faire la critique du livre des critiques de cinéma? C'est le genre de question d'Alex Vizorek.
Exactement. Bonjour, Charlie Vanhoenacker, on va bien?
Très bien.
Très bien. Alors, j'ai une belle équipe pour vous.
Ah oui, il y a une belle équipe.
C'est vrai, 17h20. 17h20, celle qui, chez elle, a déjà des chiens et des poules, et pour Noël, elle espère recevoir une dinde, mais une vraie. C'est Constance.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai des chats aussi.
Des chats, oui. J'ai oublié.
Moi, je vais vous parler de trucs et de machins.
Très bien. C'est intéressant de faire un sommaire parce que ça aide les gens à savoir vraiment ce qu'ils auront au programme. À 17h30, celui qui, en matière de dinde, les refuse dans son assiette mais adore les interviewer sur les marchés du 16e, c'est Guillaume Meurice.
Ah oui, attention aujourd'hui puisque 2018 se termine tranquillement et on a tous envie de savoir ce qu'Edith, notre amie esthéticienne, pense de l'actualité.
Ils me mettent à la Chambre des députés, tu vas voir comment je vais gueuler moi le micro, moi j'ai une grande gueule. Hein.
J'avais pas bien remarqué, tiens ça.
Et enfin à 17h40, celui qui attend avec impatience l'arrivée des rois mages en espérant que Gaspard ne va pas ramener que de l'encens à fumer cette fois-ci, c'est Hippolyte Girardot, bonjour.
Eh bien moi j'ai écrit une lettre à Louis.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Ah oui,
quel Louis,
quel mais,
Louis.
Mais lequel?
C'est une bonne question.
Qui est l'invité dans notre open space? Je vous laisse nous l'annoncer, Louis. Vous êtes
Ah moi, Louis. Je m'appelle Louis Garrel, oui.
Ah bah oui, c'est Louis Garrel. D'accord.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
C'est le bon Louis, j'ai eu peur.
Mais ils disent pas votre prénom dans l'annonce de l'émission?
Non, moi, perso, ils m'oublient tout le temps.
Ok. Ouais.
Parce que c'est nous qui avons créé l'émission, on a pris le petit parce qu'il se démerdait pas mal.
Monté dans le train en marche.
C'est une greffe.
C'est ça,
je me sens comme une bouture.
Bienvenue Louis Garrel dans cette émission. Un homme fidèle, c'est votre deuxième long métrage en tant que réalisateur, co-scénarisé avec Jean-Claude Carrière.
Apparemment, l'idée vous fait chier parce que le petit sketch là du début, vous dites bon, le film, à mon avis, il est chiant.
Alors, pas du tout. Nous, on est dans le cliché.
D'accord.
Au début, et puis on le déconstruit avec l'invité, okay. S'il maîtrise la promo. Okay. Donc, soyez bon.
Vous avez vu la lâcheté?
Je suis censé vous contredire, quoi, toute l'émission. D'accord.
Vous convaincre.
Je suis au procès, carrément. Okay.
Pas du tout, parce que moi, je me suis laissé envoûter par votre film, et j'espère que je vais en parler le mieux possible, autant que je l'ai aimé. Vous êtes aussi à l'écran, vous êtes Abel, ce jeune homme qui se fait larguer par Marianne, parce qu'elle part avec leur ami Paul, un triangle amoureux. 9 ans plus tard, Paul meurt, votre personnage Abel veut reconquérir Marianne, mais il y a aussi la jeune Ève qui est la sœur du défunt et qui veut séduire Abel à tout prix. Comme un deuxième triangle amoureux. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est un grand classique du théâtre.
Ils sont tous sur Europe 1, là, ça y est. Là.
Mais non, attendez.
Mais on vous y envoie l'heure d'après pour les récupérer.
J'insiste sur ce triangle amoureux, parce que c'est un grand classique du cinéma et du théâtre. C'est comme ça que moi, par exemple, je vous ai découvert dans les chansons d'amour de Christophe Honoré. Mais ici, il y a en plus un enfant. Qu'est-ce que vous vouliez amener à travers lui? Parce que j'ai vu, moi, un triangle à quatre.
Alors vous voulez un rectangle.
Et sacrément, comment dire, bousculé ce triangle amoureux.
Non, l'idée donc c'était de prendre un schéma très utilisé par le cinéma, par le théâtre comme vous l'avez dit, mais partout, pas que en France. C'est une idée qu'on se fait que c'est le ménage à trois est une idée française et que c'est simplement le cinéma français qui l'a visité, mais en fait partout, que de Raoul Walsh, même Antonio Cuarón, Alfonso, enfin bref, tous les gens l'ont fait parce que c'est amusant, parce qu'on le fait pas dans la vie, donc on essaie de le faire au cinéma. Et donc on a introduit un petit garçon qui lui voit des crimes partout et qui sème le désordre et qui serait même plus adulte que les adultes et donc qui organiserait et qui ferait douter le personnage que j'interprète Abel en insinuant que sa mère a tué son père.
Qui sème le désordre en dégageant une atmosphère un peu inquiétante.
Oui, parce que le film alterne entre... Enfin, on a essayé avec Jean-Claude Carrière, le co-scénariste du film, de toujours prendre le spectateur à contre-pied et de le surprendre un peu sans arrêt. Pour essayer de revisiter donc ce thème-là, que vous appelez le triangle amoureux, appelons-le comme ça, et de faire un truc qui ne s'est jamais fait avant.
Et de surprendre ses réussites, notamment par cette atmosphère légèrement inquiétante, mais aussi... drôle. Moi, j'y ai trouvé des moments drôles.
Merci.
Parce que
merci.
Parce que déjà, votre personnage...
j'ai une réputation de raseur.
C'est vrai.
Votre personnage est très amusant parce que c'est comme s'il subissait...
C'est pas contradictoire.
Hippolyte, les raseurs font rire.
Mais oui.
Merci.
Il a mis 55 ans à venir chez nous.
Tu es très drôle.
Hippolyte, est-ce que
vous... Tu es très drôle, mais tu verras dans ta lettre. Tu es très drôle.
Camarade acteur, aidez-moi.
Ne t'inquiète pas, tout va très bien.
Les scènes avec Franck Dubosc sont très réussies.
Par contre, il y a une certaine notion de l'humour chez Guillaume Noël. Un tout petit peu contradictoire avec...
Parlons-en, Louis Garrel. Non, votre personnage, il est drôle parce qu'il subit un peu la situation. Elle lui passe avec beaucoup de flegme, alors qu'au départ, il est question d'une veuve, d'un enfant qui vient de perdre son papa, d'une rupture. Donc, tout ça est un contexte où, pourtant, la douleur n'est pas ostentatoire. Et vous, là-dedans, vous naviguez avec... Moi, j'ai trouvé beaucoup de drôlerie. Est-ce qu'on peut, par exemple, raconter cette première scène qui ouvre le film, qui est déjà drôle en soi, où vous êtes drôle, et que vous avez, j'imagine, travaillé avec Jean-Claude Carrière. Comment vous pouvez la raconter et nous expliquer comment vous l'avez travaillé?
Oui, non, c'est un personnage qui se lève le matin et sa fiancée se lève aussi, lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Lui dit quoi? Dis-moi, je suis enceinte. Il dit, ah, mais écoute, c'est formidable. Elle lui dit, oui, mais c'est pas de toi. Alors, et puis non seulement elle lui annonce que c'est pas de lui, mais qu'en plus c'est avec son ami Paul qu'elle va se marier, que le mariage est prévu 10 jours plus tard, et que donc ça serait mieux s'il récupérait ses affaires, et qu'elle aimerait bien qu'il vienne au mariage, enfin que tous les deux, Paul et elle, aimeraient bien qu'il vienne. En fait, bon, bref.
Qui est dans 10 jours.
Elle déroule l'annonce faite à Abel.
Voilà, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'a aucune émotion. Enfin, on sent que c'est dur pour lui, et puis il lui dit, je suis vraiment très contente que tu le prennes bien.
Oui,
c'est ça qui est vraiment drôle.
Mais bizarrement, quand on a écrit la scène au début, quand Jean-Claude me l'a présentée, je la trouvais un peu choquante, parce que je me dis, oh, mais... On aurait peut-être envie de dire, mais comment tu peux me faire ça à moi? Et puis finalement, quand je la vois maintenant, je me dis, mais en plus, elle est plus réelle qu'autre chose. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire, parfois? Je sais pas si parce que l'histoire est ordinaire. Alors, on a essayé de lui donner un traitement très léger et drôlatique. Mm-hmm. On pourrait dire, même si en dessous, il y a des tragédies, il fallait toujours que ça reste léger pour que le spectateur, au fond, il accepte mieux le film, ou en tout cas, qu'il s'amuse avec. Mais l'idée qu'il y a aussi, c'est que quelqu'un nous quitte, on va parler comme ça, j'aime pas trop faire des métaphores avec des situations de la vie quotidienne, mais quand quelqu'un ça nous est tous arrivé, le lundi, quelqu'un nous dit je t'aime pour l'éternité, et puis le mardi, il nous dit voilà, l'éternité se termine aujourd'hui. Et donc, mais pourquoi donc? Parce que j'ai rencontré Marcel, mais depuis quand? Ça fait 6 mois. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu lui dis bon, au revoir, à bientôt, au revoir, tu dis au revoir. Je trouve, enfin moi en tout cas, ça serait plutôt la conception que je me fais de ces situations-là. C'est-à-dire à quoi bon une scène de ménage? Donc on a construit cette première scène comme une anti-scène de ménage, et qui serait légèrement décalée. Pour ensuite raconter le personnage d'Abel, qui serait comme quelqu'un qui n'aurait aucune rancune vis-à-vis de personne. avec l'idée que ça serait un cousin éloigné ou un enfant éloigné de Buster Keaton, c'est-à-dire quelqu'un qui se prendrait des gifles ou des portes dans la figure, mais qui n'accuserait personne de ça,
qui serait fataliste,
voilà, qui serait fataliste et qui n'aurait pas de, qui n'aurait pas, je sais pas comment dire, de mouvement d'humeur, sinon contre la fatalité. Quoi.
Et qui est fidèle à lui-même aussi, cet homme fidèle, qui sera en salle mercredi prochain avec Laetitia Casta qui joue Marianne, Lily Rose Depp qui joue Eve et l'extraordinaire Joseph Engel qui joue le jeune garçon.
Vraiment génial. Est-ce que tu trouves que j'ai bien parlé du film Hippolyte ?
Je trouve que tu as vraiment maîtrisé la situation d'abord, et ce n'est pas toujours facile, et que d'autre part tu n'as pas complètement défloré cette scène qui a quand même une sorte de pay-off à la fin, qui est vachement réussi. D'accord. Entre le moment où tu es dedans et le moment où tu es dehors. Et ça, tu ne l'as pas dit, et ça, c'est très bien.
Merci. Tu es ma bouée de sauvetage.
Je suis un camarade.
On est une équipe, Louis Garrel. On est une équipe, vous inquiétez pas. L'homme fidèle, donc en salle, mercredi prochain. Restez avec nous. Hippolyte Girardot reviendra, bien sûr, sur le film et votre carrière. Louis Garrel, avec nous jusqu'à 18h. Beck, loser, mais n'y voyez aucun lien.
Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps for burning down the trailer park. Yo, cut it. So the other in a bag with the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So
Jupiter, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Louis Garrel, dont le film est à l'écran mercredi prochain. Il l'a réalisé, l'homme fidèle, il joue dedans avec Laetitia Casta, Lily Rose Depp, Joseph Engel, co-scénarisé avec Jean-Claude Carrière. Et pour entourer Louis Garrel, Alex ?
Eh bien, une personne pour le soutenir, Hippolyte Girardot. Et puis deux, plutôt pour l'enfoncer, je dirais Guillaume Meurice et Constance.
Pour l'instant, c'était assez léger, on a été plutôt gentil.
Pour l'échauffement, on fait un petit point information.
Un point actuel important.
Je ne vais pas chercher des fusibles parce que vous avez envie de voir du sang et des larmes.
Le journal de presque 10 ans.
Vous aussi, vous avez eu la foudre !
Et on commence par les titres.
C'est Hollywood ici.
Oui.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a revalorisé les salaires des policiers après une journée de protestation.
Oui, à la Bourse de Paris, le cours de l'action Pernod Ricard s'est immédiatement envolé.
Ségolène Royal se dit prête à participer à une liste écologiste sans être numéro 1. Elle propose de figurer en deuxième place sur une liste menée par Yannick Jadot.
Voilà, être numéro 2 sur la liste Europe Écologie Les Verts, décidément, on sent bien qu'elle a envie de quitter l'épaule, Ségolène Royal.
Et des brèves, bien sûr.
Oui, je n'accepterai jamais une place de numéro 2 sur la liste des brèves. Ça, je peux vous le dire.
Convaincant,
vous dites. Oui, je sais.
Et donc, parlons de cette revalorisation du salaire des policiers après une journée de protestation.
Et oui, il faut croire que les membres de ce gouvernement, ils sont plus prompts à entendre les doléances des fonctionnaires quand ils sont armés de flashballs et de pistolets semi-automatiques plutôt que quand c'est des stéthoscopes et des thermomètres.
Mais en tout cas, ça a marché, Alex.
En tout cas, ça a marché. C'est la première fois que lors d'une prise d'otage, ce sont les policiers qui obtiennent la rançon.
Gouvernement encore.
Oui, pour justifier le revirement de Matignon sur les mesures annoncées en novembre, supprimées puis finalement maintenues, Benjamin Griveaux
a déclaré.
Une annulation d'annulation, c'est donc moins plus moins, ça fait plus.
Et oui, et moins plus moins, ça n'a jamais fait plus. Moins fois moins, ça fait plus.
C'est long, c'est long.
Macron s'est marié avec sa prof de français, mais on sent que Griveaux n'a jamais pécho la prof de maths.
Politique toujours, oui. Avec Laurent Wauquiez qui a renouvelé son soutien aux chasseurs.
Chouette, et si ça se trouve avec ça par cas, il y en a qui vont le confondre avec un rouge-gorge.
Oui, mais un gros. International, oui. Au Brésil, la procureure générale a accusé l'ancien président, Michel Temer, de corruption et de blanchiment d'argent.
Et oui, et si ça se passait en France, Michel Temer pourrait finir conseiller du nouveau président de la République.
Nicolas Sarkozy.
Sans transition.
sans transition. Nicolas Sarkozy a déclaré lors d'une conférence, je le cite, « Donald Trump appartient à une catégorie très rare, les gens qui ne s'améliorent pas. »
Et ouais, à laquelle Nicolas Sarkozy n'appartient pas, puisque lui, il s'améliore, il n'est plus président, déjà.
États-Unis toujours. Oui. George W. Bush parrainait anonymement un jeune Philippin. C'est ce qu'a révélé une association caritative chrétienne.
Et alors, Frédéric Mitterrand a parrainé des jeunes Thaïlandais et on n'a pas fait toute une histoire.
Média, à présent. Oui. Un journaliste vedette du Spiegel, l'hebdomadaire de référence en Allemagne, démissionne après avoir avoué avoir inventé la plupart de ses reportages sur le terrain, et notamment ceux avec lesquels il a gagné des prix.
Ouais, ça, c'est pas en France que ça arriverait, je peux vous dire qu'avec Pascal Pro et Ruth Elkrief, ça...
Quoi, parce que jamais ils bidonneraient leurs reportages.
Non, parce que jamais ils vont sur le terrain.
Ah bon, bah voilà, oui, c'est vrai. People.
Oui, Zaz était l'invité de Sophie Davant sur France 2, et le chroniqueur musical s'est dit, bah, je vais un petit peu lui parler de son disque, tout ça. Notamment, il lui a posé une question sur un des refrains qu'elle chante, qui est en espagnol.
Ça veut dire quoi, donde acabara?
Donde acabara.
Ça veut dire quoi?
Il faut apprendre l'espagnol.
Ok, bravo. Appelez-nous.
Non, mais je me démerde en espagnol, mais je t'avoue que j'apprends.
Bah, nous aussi, on débute.
J'apprends phonétiquement, après, je sais l'intention que j'ai à mettre dedans, mais j'avoue, là, je.
C'est pas grave.
La question piège, évidemment. D'ailleurs, il paraît que Kenji Girac ne sait pas ce que veut dire gitano. Donc voilà, c'est important.
Et qu'est-ce que signifie que...
Ça, c'est vous qui parlez espagnol. Hein. Moi, c'est pas mon album.
Non,
hein.
Je connais pas. Des brèves.
Climat. Une nouvelle espèce d'amphibien qui enterre sa tête dans le sable a été baptisée Donald Trump. Et si l'analogie est vraiment complète, cet amphibien, quand il s'accouple, il doit se faire pipi dessus, normalement.
La dernière.
Elle est brillante, celle-là. Pérou. Disparition au Machu Picchu d'une touriste américaine non-voyante. Et là, faudra quand même expliquer le but du tourisme. Quand on est...
Attends, redis là.
Disparition au Machu Picchu d'une touriste américaine non-voyante.
D'accord.
Voilà, okay. C'est important de faire du tourisme. On l'embrasse. Oui, bah c'est quand il met une photo.
Bah, c'est pas déjà les marches, tout ça.
Oui, bien sûr.
17h25 sur France Inter. Moi, j'essaie d'aider à un moment.
Mais hashtag, Jupiter.
Bah, hashtag, plaignez-vous.
C'est vrai que Frédéric Lopez avait fait un rendez-vous interagonné avec Gilbert Montagnier.
Qui était excellent, d'ailleurs.
Louis Garrel est avec nous. Profitons-en. Depuis que les nouvelles technologies régentent nos vies, le temps passe-t-il trop vite? C'est la question qui est posée en couverture du Courrier International, notre rapport au temps. Beaucoup vont se la poser dès demain soir, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, donc on en aura bientôt fini de nos rythmes à la con, quoique, même à Noël, on reste esclave de la trotteuse.
Mais qu'est-ce que fabrique Pierre? Alors naturellement, je vais arriver en retard chez ma sœur, ça va faire un drame. Mon beau-frère est terriblement à cheval, je vois ça d'ici. Mes neveux vont attendre leur cadeau, ils ne voudront pas aller se coucher, ça va être la croix, voilà.
Mais vous savez, Laura a eu un empêchement, il ne va certainement pas tarder.
Vous appelez ça un empêchement, vous? Ma pauvre Thérèse, vous êtes parfois d'une naïveté qui confine à la sottise, excusez-moi. Mais il faut pas être grand clair pour deviner qu'il y a une femme là-dessous.
Marie-Ange, comment pouvez-vous insinuer une chose pareille? Ça, que Pierre n'est pas une horloge dans le ventre, je vous l'accorde volontiers.
Un tiroir.
Vouloir lui prêter une liaison, c'est mal connaître les sentiments qu'il porte à sa femme.
Vous ne connaissez pas les hommes, Thérèse. Croyez-moi, homme en retard, liaison dans le tiroir.
Bien vu, Louis Garrel connaît par cœur. Anémone Josiane dans Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré. Alors, première question en guise d'échauffement au réalisateur, acteur et scénariste Louis Garrel. Vous avez tourné en 4 semaines, paraît-il. Le film, il se dévore en 1h15. Vous avez mis, j'imagine, des mois, voire plus, pour le préparer. Par rapport à nous, fonctionnaires de l'humour subventionnés dans des bureaux, votre rapport au temps, est-ce qu'il est assez chaotique? Par exemple, sur un tournage, quand on a 4 semaines pour tourner.
Deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, je faisais un peu le malin quand je disais à mes copains que cinéaste, ça, j'ai fait le film en 4 semaines et tout ça, pour comprendre finalement que Buñuel faisait les siens en 18 jours et Godard en 11 jours. Donc finalement, je suis long.
Mais c'était moins bien, le vôtre est mieux.
Pas tous. Il est moins bien. Non, mais pas tous. Et vous, par exemple, j'avais fait des émissions de radio et on se disait ça même avec Jean-Claude. Comment vous faites pour... Il faut tous les jours que vous ayez des trucs spirituels à dire, vachement difficile à faire. Moi, je serais incapable de tous les matins avoir un truc marrant à dire, quoi. Voilà, c'était les deux choses que je voulais dire. Attends, et la question c'était
le, votre rapport chaos. Au temps, oui, un peu chaotique, c'est-à-dire, par exemple, sur un tournage de 4 semaines, ouais. Est-ce qu'il y a la place pour le doute, par exemple ?
Non.
Notre rapport
moi,
au temps, c'est
si
aussi...
Si je dois parler comme ça de moi, puisque vous me demandez, je suis plutôt...
C'est pour ça qu'on vous a invité.
Non, on avait visité vie... avec Patrick Sébastien, mais du coup, ça n'aurait pas été la même question.
Oui, là, il a publié une chanson qui s'appelle Zoom Zazoom, c'est sur son nouvel album. Vous voulez t'entendre ? C'est vrai, en plus.
Non,
ça...
pas...
Et alors,
je vous mets pas en doute, Louis.
Non, dans la vie, par exemple, j'ai du mal à je suis assez inhibé, parce que quand je suis avec deux possibilités, j'ai du mal à choisir. Mais alors, sur un plateau, c'est peut-être pour ça que je fais des films, on n'a pas le temps de se poser trop de questions, il faut avancer.
D'accord.
Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont dépendants de moi, par exemple, mm-hmm. parce qu'ils attendent de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à peu près la question que tout le monde se pose. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les plateaux de cinéma.
Donc, l'accélération du temps vous permet d'avancer, ouais. de prendre des décisions à vous.
Là, pour le coup, ça va vite. Sur 4 semaines, vous avez sans doute pas vu le temps passer. Et est-ce qu'après vous avez besoin, parce qu'on entend parfois les acteurs dire, mais moi à un moment il faut que je déconnecte de cette vie qui va trop vite, et vous vous cassez au bout du monde, vous prenez vraiment le temps, vous faites des grasses maths, vous lisez, c'est-à-dire que du coup ça fait un temps déconstruit.
Tu n'es pas obligé de répondre à cette question.
Non, non, si, si. Non, je me souviens après mon premier film, j'ai eu un moment donné où je savais plus quoi faire de ma vie. Parce que tout d'un coup, non, il y a une autre chose aussi terrible. Un jour, j'étais angoissé comme ça, et je me suis dit, tiens, j'ai regardé une interview de Woody Allen, ça va me remonter le moral.
Erreur.
Et en fait, Woody Allen, il faut jamais écouter ses interviews. Alors tout d'un coup, on lui pose la question, vous aimez bien ça, faire des films? Il dit oui. On dit, mais pourquoi? Ben parce que quand je suis assis comme ça sur une chaise et que j'ai rien à faire, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi l'univers existe? Et puis pourquoi nos sens ont aucun intérêt? Puis il n'y a pas de réponse à l'univers. Et plus il était angoissé dans l'interview, plus moi je m'angoissais. Donc probablement que quand on fait des choses, c'est quand même plus agréable d'avoir l'impression qu'il y a un sens.
Oui, oui.
Voilà.
Et puis on se pose pas la question quand on est dans un temps très accéléré.
Mais sinon, ouais. Non. Et après, donc les décompressions, ouais. C'est douloureux. Après, souvent, les acteurs et les metteurs en scène disent ça, parce qu'un temps ramassé ou une espèce de vie commune à 25, où on fait le même rêve pendant, c'est délicieux pendant 35 jours, et après, tout devient. Mais au bout d'une semaine, on se réhabitue au quotidien, et c'est quand même très bien aussi, je trouve, parfois, la vie quotidienne.
Une petite question qui a rapport à la politique, sur le temps aussi. On a entendu récemment le gouvernement ou Emmanuel Macron dire « Soyez patients, les réformes donneront des résultats. Elles ont été mises en œuvre, elles vont avoir des résultats, etc. » Ce temps où on se dit « Mais notre situation s'améliore pas » et on nous dit toujours depuis 30-40 ans « Mais attendez, ça va venir, la courbe, elle va s'inverser, etc. » Est-ce que ça aussi, vous le regardez comme un temps un peu trop long?
C'est des questions super vastes. Je pense que
eux-mêmes.
Non,
avait qu'il a
non,
peut-être
je pense
raison.
C'est une, c'est une sorte de croyance. C'est-à-dire que je crois qu'au moment où ils disent ça arrive, ils y croient comme un truc de messie.
Oui.
Et puis à un moment donné, il y a des gens qui disent mais je crois qu'on n'y croit plus là. Il va falloir qu'on change ou de religion ou de système économique.
Et c'est nous qui les ramenons sur Terre à ce niveau.
Non, la grande question c'est de savoir est-ce que ça. Il y a peut-être un moment où on n'arrive plus. Ce truc du libéralisme qui dit. On paye moins les gens, mais pour redevenir compétitif à l'échelle du monde, et à un moment donné, le travail va se faire. Moi, j'avais déjà ma prof d'histoire qui disait, on risque, elle me disait déjà ça, je lui disais, mais madame, quand même, l'histoire du capitalisme, elle me disait, non, on risque, vous savez, bientôt le plein emploi. On est à 7 millions. Et pourtant, elle était agrégée d'histoire. Elle me disait, on risque le plein emploi. Et alors, à un moment donné, il faut changer peut-être de logiciel, mais d'une manière, comment on appelle ça, gay. De se dire, tiens, il faudrait inventer une nouvelle manière de s'organiser socialement.
Avec un peu d'idéal, sans doute. Louis Garrel avec nous et à vos côtés. Et pour les auditeurs, voici Constance.
Aujourd'hui, j'ai fait un sourire, mais c'est pas du tout.
C'est pas
radiophonique, on l'entend pas
c'est
à la radio. Pardon. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Excellent, c'est un jeu, c'est ça? On fait des oxymores? Ah non, parce que moi j'avoue que ça commence très fort, hein, parce que solidarité et humain, fallait oser les mettre à côté, je veux dire. Dans le même genre, on pourrait faire la journée mondiale du viol romantique. Genre, tu te fais déchirer le vagin par deux mecs qui te double pénètrent dans une ruelle sombre, mais il y en a un des deux qui met une chanson de Barry White sur son portable en fond sonore. Sympa. Je sais pas pourquoi on continue à croire que l'humain est bon. Déjà, ça dépend de comment il est préparé, vous direz un cannibale. Et ensuite, je pense que l'humanité n'a plus à faire ses preuves en matière d'ignominie. Génocide, vente d'armes, trafic d'êtres humains, pédophilie, corruption, sandwich triangle sur l'autoroute. Moi, ça fait longtemps que je ne crois plus en l'humanité. J'ai dû y croire, je crois, au tout début, comme tout le monde. Et puis un jour, j'ai réalisé que les enfoirés chantaient que la misère, c'était caca, mais en buvant du champagne. Alors j'ai pris un peu de recul. Je dis pas que tous les êtres humains sont irrécupérables, car de temps en temps, c'est vrai qu'il y a une grosse rockstar du bien qui apparaît, genre l'abbé Pierre ou Pascal le grand frère. Mais j'ai quand même plus de références de fils de pute à vous citer. Hitler, Staline, Pol Pot, Marc Dutroux, Émile Louis, le petit bonhomme vert de 7LM. Je peux pas le supporter, je peux pas vous expliquer pourquoi il m'énerve. Je pense que l'être humain, et je me mets dans l'eau, hein, est foncièrement mauvais. Alors oui, de temps en temps, on file une couverture ou un sandwich à un SDF pour se déculpabiliser, mais je ne connais pas, à part les serial killers, je veux dire, une personne qui proposerait... Ah, oh, dis donc,
la comédienne qui articule... C'est bientôt les
vacances. Oui, c'est ça, elle articule
comme un... On se la fait, celle-là.
Voilà. Heureusement que c'est pas en direct. Ok, je pense que l'être humain est foncièrement mauvais, je me mets dans l'eau. Alors oui, de temps en temps, on file une couverture ou un sandwich à un SDF pour déculpabiliser, mais je ne connais personne, à part les tueurs en série, qui proposerait à cette personne de venir dormir chez lui. La misère, la guerre, l'injustice, ça nous révolte, surtout les Miss France, qui prennent chaque année des positions fortes par rapport à ça. Mais la vérité, c'est que la misère, ça ne nous empêche pas de vivre. Parce que concrètement, on pourrait vraiment s'entraider, je veux dire, il y a assez de logements et de bouffe pour tout le monde ici-bas. Mais c'est important pour une société qu'il y ait des gens qui échouent et qui crèvent lentement. Parce que sinon, comment tu les fais flipper les autres pour qu'ils bossent pour des crottes de nez? Je veux dire, c'est important de pouvoir dire aux gosses, tu vois Barnabé, si tu travailles mal à l'école, tu finiras comme ce clochard dégueulasse plein de croûte. Parfois, j'ai des crises d'idéalisme et je me surprends à penser combien ça pourrait être beau et magique la vie. Et si on prenait le temps de s'aimer et de partager. Et puis après, je me souviens que l'homme a inventé les chaussures Crocs.
Constance, on ne s'attend jamais à la chute. C'est Constance aussi. Merci. Vous écoutez France Inter et c'est Louis Garrel qui nous accompagne jusqu'à 18h. Constance, vous êtes toujours au Théâtre des Deux Ânes, vous?
Et oui, tous les mardis.
Et tous les mardis, mais bien sûr.
Oui, je suis là.
Pendant les vacances aussi.
Non, parce que je vais fêter Noël. Non, j'ai envie de vraie vie.
C'est un choix de vie. Ouais.
Ton boulot s'en balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence, je veux te voir tout dépenser, dans ces souvenirs à fabriquer, la seule chose qui ait du sens. C'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. Laissez le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui a du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui a du sens, c'est de se barrer en vacances, le soleil se levait, sous réserve qu'on soit réveillé.
Séverin en vacances sur France Inter. Et suite à la chronique de Constance, Louis Garrel nous signale l'existence d'une application, Louis, qui s'appelle Entourage.
Et qui permet donc de
mettre en rapport les habitants des quartiers et des gens qui dorment dehors. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils le mettent sur l'application. Mm-hmm. Et donc, ils se disent, je suis à tel endroit et donc j'ai besoin d'une couverture. Donc, quelqu'un amène une couverture ou j'ai besoin de tel truc et tout ça. Ça met en rapport les gens dans les quartiers.
Ben voilà. Alors, donc, appli Entourage, réseau solidaire. Eh bien voilà.
Moi, je connaissais Tinder, je suis seul sous ma couverture. Et donc, mais c'est un peu le même genre.
Ouais, on était passé à côté, oui, heureusement que Louis Garrel est là.
Oui.
Dont le film L'homme fidèle sera en salle mercredi prochain avec Laetitia Casta, Lily Rose Depp et Joseph Engel. On va y revenir tout à l'heure, bien sûr. En attendant, voici Guillaume Meurice.
Oui, vous êtes nombreux à me demander dans la rue, dans vos messages, partout, des nouvelles d'Edith. Ah, c'est vrai que moi-même, je n'ai qu'une boussole, c'est Edith. Donc Edith, c'est l'esthéticienne du quartier de Passy, hein. Mais esthéticienne, c'est un petit peu réducteur, parce qu'Edith, elle est aussi experte en géopolitique, en économie, même si la lutte contre le poil reste évidemment son cœur de métier, hein. Son core business, comme dirait Charline. Allez d'ailleurs vous faire épiler le core business chez Edith.
Est-ce que depuis que vous parlez d'elle, ça fait monter la...
Non, voilà, elle va bientôt être cotée en bourse, je peux pas vous en dire plus. Mais Edith, c'est aussi la sérénité et le calme, hein, ça on le sait. Et c'est pour ça que j'ai voulu terminer l'année 2018 avec elle. Je suis allé la voir ce matin dans sa boutique. Alors on commence tout de suite, comme ça on évacue le sujet. Le sujet Edith, c'est Johnny. Ouais. Hein, Edith, faut savoir qu'elle était furax contre la sortie de l'album posthume. Elle avait même lancé une grande opération de boycott. C'était vraiment du sérieux. Alors Edith, il est où l'album ?
Ah ben il est là. Il y en a deux que j'aime. Il est là, bien sûr.
Mais alors Edith, il me semblait que vous aviez dit que vous l'achèteriez pas.
Ah oui, d'accord. Après, j'ai réfléchi. Oui, je ne vais pas l'acheter. Puis après, j'ai dit quand même, bon, bah tant pis, je vais quand même l'acheter.
Ouais, mais le boycott a foiré alors là.
Ben oui, non, oui, parce que les, non, il y en a beaucoup qui n'ont pas acheté, mais il y en a beaucoup qui ont acheté quand même.
Ouais.
Parce que c'est Johnny, parce que voilà.
Alors, heureusement qu'Edith, elle luttait pas contre l'apartheid en Afrique du Sud, parce qu'elle aurait craqué un tout petit peu facilement. Un carré de chocolat et hop, elle nique tout. Même si quand même Edith, elle a un côté Nelson Mandela. Je tiens à vous le dire, elle a un côté rebelle, elle a presque un côté gilet jaune, presque.
J'aime bien aller dans la rue, hein. Moi, je suis une contestataire, je suis une révolutionnaire. Mais là, non, là, ils exagéraient. Le 16e, ça a été horrible. Ils ont cassé une Porsche, c'est intelligent, ça. Mais c'est une catastrophe. Une Ferrari brûlée devant le Peninsula.
Oh, les salauds.
C'est dégueulasse.
J'avoue que ça me fait mal au cœur. Moi-même, j'ai lancé le hashtag Je suis Porsche. Heureusement que c'était pas une Twingo, d'ailleurs. En plus, c'est Carlos Ghosn en tôle. Renault a pas besoin de ça. Donc, Edith, les gilets jaunes, c'est moyen. Mais qu'est-ce qu'elle pense de Macron ?
Ah, je déteste, le hais. Tu sais ce que c'est, je le hais. Et tous mes copines sur Facebook, on peut pas le blairer. Dégage, Macron. Fallait pas voter pour lui. Nous, on n'a pas voté pour lui, hein. On avait Fillon. C'était Fillon. Il avait un bon programme, Fillon.
Qu'est-ce qu'il avait comme bon programme, Fillon ?
Il était déjà pour retirer des feignasses, là, des. Comment ça s'appelle, là ? Tous ceux qui sont payés à rien foutre sur notre dos.
Les chroniqueurs de France Inter ?
Non, non. Les chroniqueurs de France Inter, voyons. Les fonctionnaires.
Ah là, les fonctionnaires, effectivement. Parce que les gens payent à rien foutre, il y en a plein, c'est pour ça. Il y a les actionnaires aussi. Il y a Dominique Seux qui recopie les tracts du MEDEF tous les matins. Enfin, il y en a plein. Mais là, il s'agit bien des fonctionnaires.
Il faut retirer, il nous coûte trop cher.
Les fonctionnaires, c'est aussi, par exemple, des CRS. Il faudrait moins de CRS.
Ah non, alors là, je suis pour. Alors attention. Hein,
et les CRS, c'est les fonctionnaires.
Oui, mais t'as vu, mais ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont pour nous protéger.
Alors moins de fonctionnaires, par exemple, on enlèverait des infirmiers et des infirmières ?
Non.
Ah, c'est pas simple. Par exemple, hier, il a augmenté les flics, hein, Macron, en 20 minutes de négociation. Donc des fois, c'est simple quand même. Donc clairement, ce qui manque au personnel de la justice, des hôpitaux et de l'école, c'est un flashball, des grenades offensives et du pinard. Je donne l'astuce, hein, je suis là pour faire avancer la société. Comme Edith, qui enlèverait, par exemple, les sénateurs.
Je parle des sénateurs qui touchent 230 000 par mois, ils sont 200. 230 000 par mois même, oh.
Au Sénat ?
Hein, oui, les sénateurs.
Les sénateurs sont payés 230 000 euros par mois.
Énorme, il paraît. Je suis peut-être exagère, mais il paraît que c'est énorme.
Ça m'étonnerait, c'est pas le genre d'Edith d'exagérer. Donc ça m'a foutu le doute. Bon, à mon avis, voilà, elle confond avec le salaire d'Hippolyte Girardot quand il joue Léon Blum au Cinoche. Bon rôle de composition. Mais Edith.
Qu'est-ce que c'est
mais
pas
Edith,
mais
elle,
qu'est-ce que c'est pas.
Elle sait des choses, Edith, notamment sur le président.
Quand il a couché avec le Ben Lala, parce que Ben Lala vient de l'avouer quand même, hein, sur les sites, il a appelé à la police, il a dit je me venge. Il a dit que c'était vrai, que c'était un secret qu'il couchait avec le président.
Qui ça ?
Eh ben Ben Lala, Alexandre Ben Lala, le Marocain, il est.
Alexandre Ben Lala, oui, la fameuse affaire Ben Lala, on en a beaucoup parlé. Une affaire qui rappelle celle du Watergate ou celle de Muriel Pénicoco, hein, que vous vous faites parler aussi dans la presse. Edith, elle connaît bien tout ça. Donc je lance dès à présent l'opération Edith for Présidente. Hein. Est-ce qu'elle y a déjà pensé d'ailleurs ?
Tout le monde me dit, Edith, on va voter pour toi pour le commerce. Montez-moi le gouvernement. Moi, j'envoie l'armée. J'envoie les paraques, c'est des gros durs, et j'envoie les légions étrangères. Je vais te dire, là, ils vont avoir peur. Là, ils vont reculer.
Pour vous présenter, Edith, alors.
Bah, c'est ce que tout le monde me dit. Moi, je me suis dit, à une époque, je voulais me présenter à la mairie.
Ah ben bah là, je vais te dire, tu auras du changement, mon pote. D'ailleurs, il n'y a plus de Vélib, hein. Kédit, c'est lance-roquettes en libre service. Il y aurait des chars d'assaut libres sur les Champs-Elysées. Bon, en attendant l'arrivée d'Edith et ses propositions donc apaisées et mesurées, il est temps de profiter d'un peu de répit des fêtes de fin d'année qu'Edith prépare activement.
C'est très beau, tout le monde me dit qu'est-ce que c'est beau.
Bah, c'est magnifique.
Et d'habitude, si je mets le tapis rouge, j'ai l'air, j'ai mes tapis rouges. C'est beau, hein, mais c'est cher, t'as vu mes décos ? C'est moi le plus beau de la place.
Ça, c'est magnifique.
C'est magnifique, regarde, et puis les lumières fuchsia.
Ouais, des belles lumières fuchsia. Je vous conseille d'aller voir, hein, c'est la place Chopin à Paris, en espérant qu'en 2019, on retrouve autant de couleurs que chez Edith, hein, que ce soit du jaune, du rouge, du vert, en souhaitant à tout le monde de bonnes fêtes et au modèle d'économie libérale de bonnes défaites.
Merci Guillaume Meurice, et donc merci à Edith, votre principale cliente. On entre pour se faire épiler, on sort avec une méningite, c'est génial. On l'embrasse. 17h43 sur France Inter, en compagnie de Louis Garrel, avant d'écouter Hippolyte Girardot. Cette question, je voudrais vérifier avec vous, comme on a deux acteurs autour de la table, une question qui se pose, paraît-il, aux acteurs, être ou ne pas être son personnage. C'est le titre d'un article de Télérama qui interroge cette théorie de Diderot dans Paradoxe sur le comédien. C'est un petit peu... Oui, Hippolyte fait, lève les yeux au ciel déjà, comme ça.
Non, heureusement, mon camarade, oui, répond avec dextérité et bien intelligence. Sûr.
Donc, soit l'interprète veut, j'essaie de comprendre, hein, soit l'interprète veut ressentir les émotions de son personnage et se dissoudre dedans. Soit il le tient à distance pour garder sa pleine conscience de jouer, de s'amuser à jouer. Il paraît que la première méthode est parfois douloureuse.
On peut rester focus là, parce que moi j'ai un acteur en pleine Day-Lewis.
En pleine quoi ?
Daniel Day-Lewis. L'acteur anglais qui travaille tellement ses rôles qu'après il peut plus en sortir.
Okay.
Donc le tournage est fini depuis 2 semaines et il est toujours comme ça.
Mais il veut pas se laver ou se raser
Non, rien.
Moi je trouve ça magnifique, c'est une chance d'être tellement bouleversé en profondeur parce que tu fais que t'es transformé, tu deviens un autre.
Peut-être que s'il est possédé, il faut tout simplement commencer par le désenvoûter. Je connais un très bon chaman à Épinay-sur-Seine.
Mamie, tu sais, je préférerais vraiment une solution dans le monde réel si ça t'embête pas.
Chacun sa réalité.
C'est un extrait de la série 10%, avec dans cette scène Camille Cotin, Laure Calamy et Nicolas Maury. Cet article de Télérama, il y a pas mal d'acteurs qui ont répondu à cette question. Louis Garrel, quand vous incarnez un jeune homme amoureux, qui aurait pu être vous ou proche de vous, Abel dans vos films par exemple ou d'autres, votre méthode d'interprétation, est-ce qu'elle est très différente de quand vous incarnez Godard ou Robespierre récemment ?
Je me disais une chose, pour mettre en pratique cette question. Vous avez rendez-vous pour manger chez quelqu'un qui vous ennuie, et vous êtes obligé d'y aller. Soit vous prenez la décision de vous ennuyer, de lutter contre l'ennui, et ça va être une douleur. Et si vous faites semblant d'être content en arrivant, et bien petit à petit vous verrez que finalement vous serez content. Parce que le fait de faire semblant d'être content amène les gestes du bonheur. On fait semblant de sourire, au bout d'un moment on reprend... Mais je crois que c'est pareil quand on joue. De temps en temps, il vaut mieux, c'est la grande question, est-ce qu'il faut partir de l'intérieur et dire « bon, je ressens et puis j'exprime » ou « j'exprime par les gestes » et puis en fait ces gestes-là me rappelleront le sentiment. Et je crois que moi, c'est un espèce d'aller-retour entre ces deux méthodes.
Ah, c'est concret.
Vous pensez que le côté Stanislavski d'un côté et puis l'interprétation, on va dire, à l'anglaise de l'autre, c'est la même montagne qu'on gravit.
Oui, on peut pas faire de théorie générale, c'est ça la grande question. Je sais pas comment, par exemple, Chaplin, je pense pas qu'il se concentre des heures pour retrouver son personnage de clown. Par contre, je sais que Joaquin Phoenix ou Daniel Day-Lewis, il a une autre méthode. C'est-à-dire, pendant 6 mois, il s'immerge et puis il fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours l'histoire de faire semblant et d'un moment donné d'y croire. Enfin, en tout cas, de se dire qu'on y croit.
Ouais. Et est-ce que c'est très différent Hippolyte voulait peut-être réagir.
Non, c'est l'histoire de Dustin Hoffman, Laurence Olivier, c'est le classique.
Oui.
Mortalman.
Racontez-la.
Non,
mais si, parce que non, les gens
justement.
Les connaissent.
Non, voilà, je la raconte.
D'accord.
Pas.
Bon, d'accord.
Vous voulez que je la raconte ?
Oui.
C'est sur Marathon Man. Dustin Hoffman faisait du jogging pour être, si vous voulez, dans le rôle de quelqu'un qui court. Et l'autre, il lisait son journal, il prenait son café. Et à un moment, il y va, il lui dit mais tu veux pas te mettre dans le personnage ? Il dit non, je suis un acteur. Moi, je joue. Et donc, effectivement, c'est les deux façades, ce que vous disiez. C'est-à-dire que peut-être en se plongeant.
Peut-être c'est un débat à la con.
Non,
que
mais
Télérama
non, ça...
n'aurait pas.
Mais c'est pas vrai parce que la réponse est intéressante. C'est la réponse qui compte. C'est pas la question.
Il y a une autre chose. Là, je dois donner des cours, enfin, à des jeunes acteurs. Et par exemple, une chose que je pourrais leur dire, c'est si vous voulez jouer l'ennui, plutôt que de jouer l'ennui en montrant que vous vous ennuyez, en fait, dans la vie, quand on s'ennuie, ça se trouve quelqu'un autour de la table là qui s'ennuie, vous ferez tout pour pas montrer que vous vous ennuyez. C'est comme ça qu'on comprendra que vous vous ennuyez. Voilà. Donc, il faut toujours prendre de temps en temps des détours pour, je sais pas, exprimer les... Tu es d'accord avec moi, Hippolyte ?
À fond. C'est comme quand tu joues quelqu'un qui est sous. Ah oui, en général, quand tu es sous, tu ne veux surtout pas montrer que tu es sous.
Non, Gérard de Sarthe, mon grand professeur au conservatoire, m'avait dit quand quelqu'un est sous, il essaie de montrer qu'il n'est pas sous. Donc il essaie de trouver l'équilibre. Exactement. Il ne faut pas se déséquilibrer pour jouer ça.
Exactement, bien sûr.
Constance, du coup, par rapport à cette technique de on fait semblant et ça vient, enfin, si on fait semblant de jouir, au bout d'un moment, on jouit.
Ouais. c'est une question que je vous pose maintenant.
Moi, je fais pas trop semblant, mais j'ai des copines
résultat,
peut-être.
Vous jouissez peu, je pense.
Non, ça va. Hein, c'est loin du sujet, là.
Non,
c'est
pas. Peut-être.
Vous voyez, la réponse était intéressante. Pour terminer, est-ce que au théâtre et au cinéma, c'est si différent? Parce que comme dans le théâtre, il y a la convention du faux avec le décor, etc. Est-ce qu'on doit y aller plus franco au théâtre dans le fait d'essayer de presque ressentir l'émotion de son personnage par rapport au cinéma ou pas?
Bah, bizarrement, en fait, au théâtre, enfin, à part si on fait un monologue. On est toujours avec les autres. Donc en fait, si on peut se rattraper. Souvent au cinéma, la grande difficulté, c'est qu'on a des gros plans et qu'on est tout seul avec une grosse machine en face de soi. Et c'est plus difficile. Le théâtre, il y a l'idée qu'à un moment donné, il va falloir se connecter les uns aux autres quand même.
Voilà,
tu es d'accord avec moi, Hippolyte ?
Oui, oui.
Hippolyte valide.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une convention au théâtre. Comme dit Charline, il y a une convention que tout est faux, qui est objective. Alors qu'au cinéma, je pense que la caméra permet de créer une sorte de réalité virtuelle dans laquelle on se plonge quoi complètement. C'est un peu différent.
Comme Jean-Pierre Léaud, parce que vous avez l'air d'avoir référence à la Nouvelle Vague, avait presque inventé le semi-faux au cinéma. Et on aime cette façon de jouer là quand c'est lui.
Oui, enfin, il n'avait pas inventé le semi-faux, il a imité François Truffaut, qui, lui, quand il parlait comme ça.
Non, mais de plus en plus, je crois, de moins en moins, mais l'histoire du jeu naturaliste, par exemple, je ne sais pas, à part chez Kechiche, où c'est des études de caractère, qui ressemblerait à, comme dans la vie, mais je crois parfois qu'un geste, plus il est artificiel, mais s'il est juste, il ressemble plus à la vérité, enfin, il a plus des allures de vrai que l'imitation pure.
Ouais.
Est-ce que c'est confus ce que je dis ou pas du
tout?
Non, mais
c'est-à-dire que par exemple, il y avait un grand acteur italien qui s'appelle Peppino Di Filippo. Un jour, dans une scène, il se fait quitter par une femme pour qui il a tout quitté d'ailleurs, et elle lui dit, je te quitte, je pars avec un autre mec, il a plus rien. Et il s'évanouit en faisant un tour sur lui-même. Personne ne s'évanouit comme ça. Et ben, c'était plus vrai de s'évanouir en faisant un tour sur soi-même. Donc le faux, parfois, est plus vrai que le vrai.
Oui, parce qu'en fait, au cinéma, on s'en fout de la vérité. Ce qui compte, c'est la fiction.
Ouais, exactement.
C'était un moment un peu cahier du cinéma. C'était passionnant. Et merci à Télérama d'avoir posé cette question. Même si vous la trouvez con, elle apporte des belles réponses.
C'est vrai, mais parce que les gens autour de la table sont brillants. J'avais un peu sous-estimé Hippolyte Girardot, je dois l'avouer.
Louis Garrel.
T'as du mal.
Avec nous, dont l'homme fidèle est en salle mercredi prochain. Hippolyte Girardot, je vous le laisse.
Louis Garrel. Non, je recommence. Mon cher Louis, non, ça c'est trop formel, même si le garçon est cultivé, tout de même, c'est un peu collet-monté, surtout avec Louis comme prénom, il s'appellerait Robert, ça irait. Cher Robert, déjà derrière, on entend « Allez Robert, mon pote », tandis que derrière Louis, t'entends « Louis, la guillotine, c'est par là, non, laisse tomber, il faut les chercher. » Cher Louis Garrel, bah, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est un peu pompeux, mais c'est pas mal. Allez, yalla, c'est parti. Cher Louis Garrel, en regardant votre film, je me suis rendu compte que je l'écoutais. Votre beauté, votre air lunaire, votre clown intérieur, votre splendide épouse dans la vie, votre tout aussi splendide partenaire à l'écran, ce pari que vous aimez inconsidérément, votre excellente idée de vous associer avec ce grigou inspiré, merveilleux, unique de Jean-Claude Carrière pour adapter Marivaux, le premier grand auteur parisien, à Marivaux que vous avez pratiqué sur scène brillamment, votre volonté d'austérité dans les décors pour s'éloigner de l'imagerie de la fameuse Nouvelle Vague. Là, ça serait bien que t'arrêtes tes conneries et que t'en viennes au fait, parce que oui, il se demande, merde, c'est l'art, cochon, gilet jaune, il sait pas. En plus, c'est un copain, un camarade, alors oui, ouais, d'accord, ok. Tout ceci et plein d'autres choses, aussi comme cet enfant terriblement juste et percutant, inquiétant comme les enfants peuvent l'être, et son « Oh, vieillesse ennemie, que n'ai-je vécu pour cette infamie ?» Et j'avais oublié, ou j'allais oublier, la belle idée des chaussures, idée que je considère comme un hommage au plus grand cinéaste de tous les temps, à savoir l'incroyable Luis Buñuel, que connaissait effectivement très bien Jean-Claude Carrière. Il va craquer si ça continue, ça va pas le faire. Oui, tout ceci, cher Louis, ne serait rien, mais rien de rien, mais pas tout à fait, mais enfin tout de même beaucoup moins. Tu vas le lâcher, oui, merde. Sans que d'aucun appellent un procédé facile. Oui, c'est vrai, un artifice pour manchot de la narration, une sorte de Viagra du chant contre chant. Ce contre quoi, d'ailleurs, moi, personnellement, je m'insurge profondément, fort d'une armée de 1000 contre-exemples. Encore une minute comme ça, Hippolyte, tu vas te faire taper. À savoir le procédé, non, que dis-je, la touche, que dis-je, l'envoi, que dis-je, l'ultime pointe, la voix off. Eh ben, tu vois, quand il dit mais, c'est vachement mieux, merde. Ouais. Votre voix off dit tout avec économie et sentiment. Mais, très bonne idée, elle n'est pas la seule. Celles de vos camarades de jeu sont là aussi, rendant un bel hommage aux apartés de théâtre et aux divans des psychanalystes. Pas mal le coup du psy, ça c'est bien, ouais. J'ai lu quelque part que vous vouliez vous éloigner de la nouvelle vague, mais accomplissant une révolution naturelle, la voix off n'a fait que vous y ramener, humblement et spirituellement. Tu devrais finir avec le titre, parce que ça marche toujours, ces conneries. Ouais, d'accord. Et donc, ainsi, vous voilà fidèle, Louis, à votre engeance masculine, Maurice, le grand-père acteur, et Philippe, le père réalisateur, dont vous réunissez les qualités en étant à la fois devant et derrière la caméra, à la fois parlant à voix haute et pensant à voix off. Je pense que c'est toi qui es off. T'es off limite, man.
Merci.
C'est parce que je t'ai beaucoup invité à manger. T'es tellement sympa de dégager avec moi. Merci, pute. Alors voilà, quand j'en ai marre d'entendre parler de la nouvelle vague, je dis un truc. Mm-hmm. Hippolyte, il joue dans Roi RN d'Arnaud Desplechin. Ceux qui l'ont vu ont de la chance. Ceux qui l'ont pas vu ont aussi de la chance parce qu'ils vont le voir.
Pas mal.
Et il y a, dans une scène, Hippolyte qui dit à Mathieu Amalric, Hippolyte survolté qui dit « J'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. Je commence par laquelle ?» Amalric lui répond « La mauvaise. » Alors il lui dit « Voilà, t'as des dettes énormes. » Et Amalric lui dit « Et la bonne ?» Et Hippolyte dit avec un grand sourire « Je ne sais plus. » Et tout d'un coup, et ben, cette scène, le rythme de Hippolyte, je le pique tout le temps quand je joue. J'essaye de me souvenir de... Parce qu'en fait, quand on joue, quand on est acteur, il y a deux, trois séquences comme ça, phares ou mythiques, et celle-là en fait partie, par exemple. Je pense toujours à Hippolyte avec ses deux mains qui lancent en l'air avec un grand sourire « Je ne sais plus. » Toujours. Donc c'est toujours... C'est pas forcément de la théorie quand on joue. C'est-à-dire on est tout le temps en train de s'inspirer de tout.
Oui. Oui, bon. Et qu'on a intériorisé. Hippo,
c'est vrai.
Non, mais
c'est vrai qu'il a tout à fait raison. Et quand il m'a.
De ça, c'est vous.
Non, mais j'oublie ça. Non, mais j'oublie cette scène. Et d'un seul coup, je vois les gestes et je me dis, mais d'où j'ai sorti ça? Évidemment, j'ai sorti d'Arnaud, qui lui-même les a sortis quelque part. Ben, évidemment. Et tous les acteurs au cinéma imitent leur metteur en scène, en permanence.
Eh bien, la question suivante, alors, puisqu'on a parlé du jeu d'acteur, dans la réalisation, parce que c'était un peu l'objet du troisième sujet dont on a trop peu de temps, mais sur les livres, Slate propose 8 livres sur le cinéma, les critiques d'André Bazin ou tous les textes critiques de Jacques Rivette publiés dans les Cahiers du cinéma. Vous, comme réalisateur, bien sûr, j'imagine qu'il y a vos parents que vous avez regardé travailler. Aussi, au générique, vous remerciez Michel Hazanavicius, Noémie Lvovsky et Rebecca Zlotowski. Est-ce que ce sont, pour la réalisation, des gens aussi pour lesquels vous avez peut-être ce même réflexe qu'avec des scènes, c'est-à-dire d'apprendre un peu d'eux, de vous nourrir
Ouais, tout le temps. Mais c'est plutôt des trucs techniques en fait. Quand je parle à d'autres metteurs en scène, je dis mais combien t'as répété de temps ou qu'est-ce que t'as donné à manger sur le plateau ou quelle lentille tu utilises, quel format,
c'est
le son, le
mixage. C'est pas la partie artistique, c'est vraiment la partie technique.
Non, parce qu'en fait bizarrement ça tu peux pas vraiment partager ça. Ouais. D'ailleurs quand on lit le dialogue entre Hitchcock et Truffaut dans la conversation, c'est vachement technique comme on parle d'Hitchcock et c'est pour ça que c'est un bouquin de référence parce que c'est plein de choses d'artisanal. Et donc c'est ça qui est le... D'ailleurs moi quand je lis un entretien de metteur en scène, soit il est super intelligent comme je sais pas même Assayas, mettons, il arrive à théoriser le cinéma. Et j'aime bien quand un metteur en scène expose techniquement sa méthode parce que faire un film c'est une espèce d'empilement de plein de petits gestes techniques. Et puis à la fin, on fait semblant d'avoir tout maîtrisé. Alors qu'en fait, c'est plein de hasard et de petits savoirs comme ça.
Comme Truffaut a été interviewé son idole, qui était Hitchcock, si vous aviez le choix d'aller interviewer un metteur en scène vivant, vous choisiriez...
Aujourd'hui, là, j'irais vraiment voir Kechiche.
Je l'ai
vu après une projection, je lui ai dit bravo pour Make Two My Love, qui est vraiment le chef-d'œuvre que vous avez. J'ai espéré qu'il me dise prenons un café, puis il n'a rien dit.
Ça s'est joué.
En quittant cette émission, je pense que chacun aura à cœur d'aller au cinéma ou de sortir les DVD. Louis Garrel, interprété du Alex Vizorek, est-ce que vous serez d'accord?
En fin d'émission, on joue un sketch avec l'invité.
Allez, vas-y.
Gros rôle, attention. Demain, c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Et il fêtera.
C'est demain.
Oui, c'est demain.
C'est demain.
Et quelques membres du gouvernement ont voulu lui organiser une petite fête. Ils ont fait appel à vous, organisateurs, Guillaume et Christophe Castaner, et je suis François de Rugy.
Donc moi je suis l'organisateur de l'anniversaire.
Exact.
Joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, président.
Pardon, mais vous avez un jour d'avance, monsieur Castaner.
Ah, c'est-à-dire, je suis tellement excité à l'idée de fêter mon maître.
Vous avez un budget pour la cérémonie?
Illimité. Rien n'est trop beau pour notre guide.
Ok, alors pour la déco, je propose des guirlandes électriques.
Ah non, ça c'est un mauvais signal pour l'écologie.
Ah bon, parce que l'écologie est une préoccupation d'Emmanuel Macron?
Non, vous avez raison.
Bien, alors en ce qui concerne le service de vaisselle, est-ce qu'on est bon?
Ah bah, plus que bon, là, on a 900 assiettes de présentation, 300 assiettes à pain, toutes.
D'accord. Ouais. Et le gâteau?
Gérard Collomb.
Non.
Il a dit le gâteau, pas le gâteux.
Oh, pardon. Un gâteau bio, végétarien, sans gluten.
Alors, on fait sortir une fille dénudée?
Et voilà, bah c'est toujours pareil, encore du sexisme.
Est-ce que vous avez une meilleure idée, madame Schiappa?
Bah oui, pourquoi pas un homme?
Vous pensez à qui?
Alexandre Benalla, il sera parfait.
Excellent. En plus, on pourrait le déguiser en cow-boy.
Oui, du coup, il a pas besoin de déguisement. Enfin, pardon.
D'accord. Alors, vous avez pensé à un cadeau?
Oui, je pense à lui offrir mon dernier livre, Si souvent éloigné de vous, aux éditions Stock, 19,90€, disponible dans toutes les librairies.
Marlène, on n'est pas sur un plateau de télé, là.
Ah, désolé, c'est un réflexe, vous comprenez.
Donc, pour l'animation, j'ai pensé à un magicien.
Oh non, c'est nul.
Ah, vous aimez pas les lapins dans les chapeaux?
Les lapins sont bio. Non, c'est surtout qu'il n'y a pas de meilleur magicien que notre président.
Moi, je peux faire un spectacle sur scène. Je prends trop bien la lumière.
D'accord, alors pourquoi pas?
Vous avez pensé à un lieu?
Oui. Je propose de lui fêter son anniversaire en extérieur.
Ah, sur une plage au Touquet?
Dans un champ d'éoliennes?
Dans une manif transgenre?
Non, j'avais pensé à un autre endroit au milieu d'un rond-point.
Ah, super, ouais, je m'occupe des fumigènes, des feux d'artifice, pardon.
Franchement, vous êtes toute une belle équipe.
Vous êtes une toute belle équipe. Attention, si je vois rien.
Ah, vous êtes une toute belle équipe.
Merci beaucoup Louis Garrel d'avoir joué le jeu avec nous, d'avoir partagé ce moment, on était très heureux. Je rappelle que votre film L'homme fidèle sort en salle mercredi prochain avec Laetitia Casta, Lily Rose Depp, Joseph Engel, un scénario que vous avez coécrit avec Jean-Claude Carrière. Rappelez-nous aussi qui est auteur de la musique du film.
Alors il s'appelle Philippe Sard. Voilà. C'est un compositeur de, il a dû musiquer 250 films et donc je l'ai fait comme Quentin Tarantino avec Morricone, j'ai fait DJ Sard. J'ai pris plein de morceaux anciens qui existent dans d'autres films, de Téchis, j'ai tout mélangé et puis aussi il y a des originaux.
Louis Garrel, merci beaucoup. L'homme fidèle, donc en salle mercredi prochain. On va se retrouver bien sûr demain, les amis. Merci Constance, merci Hippolyte, merci Alex et Guillaume. Et on va laisser le mot de la fin à Louis Garrel, bien sûr.
Ça nous est tous arrivé le lundi, quelqu'un nous dit je t'aime pour l'éternité, et puis le mardi, il nous dit voilà, l'éternité se termine aujourd'hui.
On a 10 secondes d'avance,
c'est
mais.
Pas vrai,
bah si, je sais pas. Comme ça, on arrive. C'est le temps, vous savez, le temps,
moi,
c'est
j'ai
important.
J'ai une blague.
Oh non, ah zut, c'est dommage, c'est trop tard, Louis-Garrel.
Mais si, allez-y, je vous en prie.
Si, ah si, Fabienne Synthèse vous dit que vous pouvez la faire,
c'est
la blague.
C'est deux amis qui se rencontrent dans la rue, le premier dit à l'autre en un mot, comment ça va? Il dit bien. Et en deux mots, pas bien. Voilà.